Alors, je suis Marion Gaudenzi, conseillère pédagogique à l'IDIP. L'IDIP, c'est l'Institut de développement et d'innovation pédagogique qui se situe à Strasbourg. Donc, je travaille pour l'Université de Strasbourg. Je vais témoigner aujourd'hui d'une ébauche ou en tout cas d'un commencement de mise en place de l'approche programme dans un master en informatique à l'Université de Strasbourg. Ce travail, il a été fait avec Basile Sauvage, qui est enseignant-chercheur au département de mathématiques et d'informatique, avec qui j'avais témoigné ici l'année dernière, mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc je vais apporter plus la vision sur l'accompagnement à la mise en œuvre de cette approche programme, mais je vais quand même essayer d'apporter des touches de ce qu'il a pu formaliser sur la manière dont ça a été difficile ou non pour lui. À l'Université de Strasbourg, on est dans un contexte où on a eu un financement IDEX, et donc on est une structure qui existe depuis 2013, avec 4 conseillers pédagogiques à plein temps. Donc c'est important de le préciser parce que je discutais tout à l'heure avec ma collègue de Brest, et donc ça explique aussi toute la réflexion qu'on a pu avoir derrière, ou le montage des ateliers, etc. Alors, mes intentions pour ce témoignage, elles sont affichées ici. Donc, j'aimerais vous présenter l'organisation du déroulé du projet. Donc, comment s'est passé cet accompagnement. Également les ateliers. Donc, revenir un peu. Il y a eu un certain nombre d'ateliers qui se sont déroulés. Donc, revenir sur ces ateliers et sur comment est-ce qu'ils se sont déroulés en pratique. Identifier les moments charnières, parce que vous le verrez, il y a eu un certain nombre de moments qui ont permis d'avancer dans le projet, ou en tout cas de poser des jalons. D'identifier les personnes clés, parce que c'est également pour nous un des facteurs de réussite du projet. De parler un petit peu du développement professionnel à la fois du porteur, donc de Basile Sauvage, l'enseignant-chercheur, et de moi-même, conseillère pédagogique. Et ensuite, un temps d'échange avec vous sur cette expérience. Je serai là aussi cet après-midi et demain, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, quel est le contexte dans lequel s'est inscrit cet accompagnement à l'approche programme? Déjà, vous le savez, il y a une volonté ministérielle. Dans le cadre des accréditations, l'idée, c'est de replacer l'étudiant au centre et donc de développer des programmes qui soient centrés autour du développement de compétences pour les étudiants. À l'Université de Strasbourg, on faisait partie de la vague d'accréditation, la vague C, et donc on a dû retravailler notre offre de formation pour l'accréditation 2018-2022. Donc dans ce cadre-là, l'Université de Strasbourg a été le relais de cette volonté ministérielle, dans le sens où la gouvernance a édité un document de cadrage dans lequel il était demandé aux composantes de réfléchir à une vision de la formation, et surtout de définir un profil de sortie des diplômés avec un certain nombre de compétences qu'on souhaitait voir développées chez les diplômés. Donc c'est important déjà de dire qu'il y a eu un soutien de l'Université de Strasbourg et qu'il y a eu un certain nombre de points d'étape demandés aux équipes. Deuxièmement, l'IDIP, donc le service universitaire de pédagogie dans lequel je travaille, qui a également été en contact à la fois avec la gouvernance sur qu'est-ce que c'est l'approche programme, comment est-ce qu'on peut faire pour amener les équipes à travailler la démarche d'approche programme, et en soutien aux équipes directement dans la mise en œuvre de la réflexion. Et enfin, l'UFR de mathématiques et d'informatique, donc c'est cet exemple-là que je vais vous présenter aujourd'hui, pour lequel donc il y a un directeur de département qui s'est également fait le relais de ce qui avait été demandé par l'Université de Strasbourg, qui a pris en charge la démarche et qui a délégué à Basile Sauvage, donc l'enseignant qui a porté le projet, la responsabilité de la mise en œuvre de la démarche. Donc voilà le contexte. Au départ du projet, on s'est donc posé deux questions avec Basile, surtout lui au départ. Donc la première question, c'était comment est-ce qu'on fait pour initier cette démarche, sachant que la démarche, elle est nouvelle pour l'équipe d'enseignants. Donc Basile avait anticipé énormément de doutes, de réticences, de résistances, et donc c'est dans ce contexte-là que s'est construit l'accompagnement, parce que lui, à chaque fois qu'il venait pour me parler de ce projet-là, il remettait sur la table tous ces doutes, les résistances qu'ils pouvaient connaître de ses collègues. Comment initier cette démarche, parce que c'était également nouveau pour nous les conseillers pédagogiques, parce qu'on était en train de monter une formation, un cycle de formation sur l'approche programme. On n'avait pas de modèle type d'accompagnement à l'approche programme, approche par compétences. Donc ça a été également une nouveauté pour nous, et ça s'est construit au fil des accompagnements d'équipe. Là, je ne parle pas que uniquement de celle de Basile, mais de toutes les équipes qu'on a pu accompagner. Deuxième question, c'était comment créer une dynamique collective, sachant que c'est un point de départ essentiel pour la mise en œuvre d'une réflexion approche programme ou approche par compétences, et sachant que dans cette équipe de, enfin du département de mathématiques et d'informatique, il n'y avait pas une grande tradition de travailler ensemble. Donc voilà, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener les gens à travailler ensemble et surtout pour maintenir la dynamique de travail collectif. Avant de vous parler du déroulé du projet, je voulais vous présenter les personnes qu'on a identifiées comme clés avec Basile, parce que disons qu'on l'avait pas formalisé comme tel, mais c'est au fur et à mesure du projet qu'on s'est rendu compte que ces personnes avaient joué un rôle important, et que si on n'avait pas clairement identifié ces personnes-là et clairement identifié leur rôle dans le projet, ça aurait peut-être pas été aussi fluide. Alors, le premier rôle clé, c'est celui du porteur de projet. Donc, c'est l'enseignant-chercheur Basile Sauvage, dont je vous ai parlé avant, qui a été formé à l'approche programme. Donc, je vous le dirai tout à l'heure, mais on a un cycle de formation à destination des enseignants. Il avait une motivation personnelle assez importante parce que les questions de pédagogie l'intéressent depuis un bout de temps. Et donc, il avait envie de travailler autour du développement de la compétence chez les étudiants. Et il a une crédibilité pédagogique dans son département parce que c'est un enseignant qui fait déjà pas mal de choses en termes de pédagogie et que ses collègues sollicitent ou mobilisent souvent lorsqu'ils ont des questions autour de la pédagogie. Et donc son rôle, ça a été de coordonner le projet, d'animer un certain nombre de réunions et surtout, très important, de communiquer avec le reste de l'équipe et donc de toujours faire le lien entre le projet et l'équipe. Deuxième personne clé, conseiller pédagogique, donc moi qui l'ai accompagné dans ce projet. Les caractéristiques, c'est expertise sur le sujet, ce que n'ont pas les enseignants, la neutralité et le regard extérieur vis-à-vis de la discipline, ce qui aide beaucoup dans les réunions quand il y a des blocages ou autres. Ça permet d'avoir un peu cette vision externe aux discussions. Et donc mon rôle, c'était l'animation de certaines des réunions ou des ateliers et soutien méthodologique et donc accompagnement à la fois du porteur et de l'équipe. Troisième rôle clé, le directeur de département, donc qui a décidé de s'engager dans la démarche, donc qui a à la fois été un soutien politique, c'est-à-dire qu'il a donné les clés à Basile pour réaliser le projet, et à la fois il avait un rôle de prise de décision, dans le sens où c'est lui qui prenait les décisions quand il fallait trancher et il assumait ses décisions, et ça c'est assez important quand on doit faire, quand on entre dans un projet comme celui-ci. Donc voilà pour les personnes clés de ce projet. Alors maintenant, comment s'est déroulé le projet ? Donc je vais vous faire le déroulé de l'automne 2015 à aujourd'hui, sachant que la mise en œuvre d'une telle démarche prend beaucoup de temps, et c'est ce qu'on va voir notamment à travers cette présentation. Alors, pour représenter le projet, donc automne 2015 à 2017, parce que concrètement, les maquettes sont entrées en vigueur en 2017 et on voit qu'il y a un petit relâchement depuis. Et donc, il y a trois niveaux dans cette frise. J'ai mis en haut les événements collectifs, donc c'est toutes les réunions qui ont eu lieu avec l'équipe, les ateliers de travail, etc. Et en dessous de la frise, en dessous de la flèche, vous avez la partie immergée de l'iceberg, donc tout ce qu'on voit pas mais qui joue énormément dans une telle réflexion, c'est tout le travail de fond avec les réunions qu'on a pu avoir avec Basile, soit seul, soit avec le directeur de département, toutes les réunions de recadrage, des briefings, et ce qu'on a appelé les entretiens décisifs ou les moments charnières, c'est là où il y a eu des éléments importants qui ont entraîné, on va dire, l'orientation du projet vers telle ou telle voie. Alors, premier temps, ce qu'on a appelé le temps d'initiation du projet. Ce temps d'initiation du projet, concrètement, c'est la formation du porteur, donc Basile, qui a suivi un cycle de formation qui est proposé à l'IDIP. Donc, à l'époque, c'était un cycle basé uniquement sur l'approche programme. Et donc, on avait trois ateliers au cours desquels les enseignants étaient amenés à travailler concrètement sur un projet fictif. Donc, il devait monter un DU en pédagogie universitaire. D'ailleurs, maintenant, il existe à l'université de Strasbourg et on s'est inspiré de ce qu'ils avaient produit. Et donc, pendant les, ouais, on est comme ça. Et donc, pendant les trois ateliers, ils étaient amenés à, autour des jalons de l'approche programme, à définir un projet de DU en pédagogie universitaire. Suite à cette formation, au printemps 2016, donc formation à l'automne 2015, au printemps 2016, un coup de fil de Basile qui me dit « Oui, j'ai mon directeur de département qui veut qu'on réfléchisse au nouveau programme en termes d'approche programme et donc j'aimerais qu'on se rencontre pour voir comment est-ce qu'on peut faire ça avec l'équipe. » Donc voilà, la première réunion avec l'ensemble de l'équipe, s'est tenue au printemps 2016. Et donc l'objectif de cette réunion, c'était de présenter la démarche à l'ensemble de l'équipe. C'est important de préciser que à chaque fois l'équipe qui était présente, c'était uniquement des volontaires. Donc tout le monde était invité à participer à ces réunions, mais venaient uniquement les volontaires. Dès le départ, avec Basile, on s'est dit que de toute façon, pour que les gens puissent adhérer à les démarches, il fallait qu'ils soient volontaires. Donc on voulait présenter la démarche, lever les ambiguïtés et faire prendre conscience à l'équipe de leurs responsabilités, dans le sens où c'est ni l'IDIP ni l'université de Strasbourg qui étaient responsables de la formation qu'ils allaient donner. C'était eux et équipe pédagogique. Et donc, l'idée, c'était de poser les bases dès le départ et de leur dire soit vous avez envie d'entrer là-dedans, soit, on passe à autre chose. Mais voilà, l'idée, c'était de se dire, voilà ce que nous, on peut proposer en termes d'accompagnement. Si vous êtes prêts, c'est de votre responsabilité d'entrer dans la démarche. Donc, concrètement, on était deux conseillers pédagogiques et on leur a expliqué brièvement avec un schéma, ce qu'était l'approche programme, en leur disant bien sûr qu'on allait s'adapter à leur contexte dans l'accompagnement et qu'on n'allait pas faire un déroulé stricto sensu de la démarche approche programme. Mais voilà, et donc ensuite, on a répondu à leurs questions, à leurs doutes, etc. Deuxième moment clé dans cette mise en œuvre de l'approche programme, c'est un premier atelier autour des compétences. Et donc, lors de ce premier atelier, on avait 17 enseignants qui étaient présents sur les 31 que compose l'équipe pédagogique. Pour cet atelier autour des compétences, alors déjà, à l'IDIP, on aime bien commencer par présenter la démarche approche programme avant de réaliser ce premier atelier sur vision des diplômés et compétences. Ça laisse déjà un temps à l'équipe de digérer la première réunion de présentation sur ce que peut être l'approche programme, sur les enjeux, sur la responsabilité que ça va représenter pour eux. Et ensuite, on fait un atelier spécifique sur définition de la vision du diplômé et des compétences. L'intention de cet atelier, c'était de permettre aux enseignants d'échanger sur leur conception du projet de formation pour arriver à une vision partagée. Donc concrètement, l'atelier s'est déroulé en deux étapes. Première étape où on travaille sur quelles sont pour eux les valeurs importantes que les étudiants doivent développer à l'issue de la formation. Pour ça, on travaille avec un jeu de cartes qui se situe juste à côté de Catherine. Catherine, tu peux montrer le jeu de cartes qui est sous mon téléphone, pardon. Donc c'est un jeu de cartes qui a été développé par Seligman, et donc il y a une cinquantaine de cartes de force. Vous pourrez le regarder tout à l'heure si vous voulez. Et on demande individuellement aux enseignants de choisir trois valeurs qui, selon eux, doivent être développées chez les étudiants à la sortie du diplôme. Et ensuite, on met les enseignants en équipe et on leur demande de choisir collectivement cinq valeurs. Et donc ça, c'est un moyen de les faire travailler sur une vision partagée de ce que doivent être les valeurs à développer au sein de la formation. Deuxième temps, on travaille sur le référentiel de macro-compétences. Pour ça, on demande aux enseignants de rédiger sur des post-it peu importe le niveau de granularité, tous les objectifs, compétences, macro-compétences que doivent développer les étudiants à l'issue de la formation. Pour ça, on leur demande de répondre à une question. À la fin de la licence ou à la fin du master, l'étudiant devra être capable de, avec un verbe d'action et un contenu derrière. Donc on fait un espèce de brainstorming et ensuite nous, conseillers pédagogiques, on essaye de faire des groupes de ces post-it pour arriver à 8 à 12 macro-compétences. Donc ça, c'était pour le premier atelier. Suite à ce premier atelier, il y a eu un temps, vous voyez ici, mise au propre, compte-rendu atelier. Tout ça, ça a été le travail de Basile, où il a retravaillé les compétences pour faire en sorte qu'elles soient bien formulées, où il les a envoyées à l'équipe, où l'équipe a pu faire un retour. Donc quand je parlais de communication avec l'équipe, c'est tout ce travail-là qu'a fait Basile. Suite à ça, il y a un deuxième atelier qui s'est tenu. Donc là, pour cet atelier, on avait 20 enseignants présents sur les 31 que compose l'équipe. Et cet atelier, il s'est déroulé autour de la construction d'une matrice de formation qu'on a appelée partielle. Encore une fois, j'ai laissé Basile revenir vers moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de dérouler stricto sensu d'approche programme, mais c'est-à-dire que en fonction des besoins et des demandes de l'équipe, on a à chaque fois raccroché leurs attentes à la logique d'approche programme. Donc là, Basile m'a dit « Oui, j'aimerais retravailler la matrice de formation pour le master, parce qu'en fait le master avait à l'époque 3 parcours et il voulait passer à 4 parcours, et donc il a utilisé ce levier-là pour ramener l'équipe à travailler autour de la logique d'approche programme. Et donc concrètement, ça c'est Basile qui a animé cet atelier et qui avait demandé qui était déjà passé avec le directeur de composants de voir chaque responsable du UE. Il a réalisé une matrice de formation générale sur le master. Et donc, à partir des macro-compétences qu'on avait développées dans le premier atelier, il est allé voir chacun des responsables du UE et il a rempli la matrice pour voir si chacune des compétences était développée ou non dans les unités d'enseignement. À partir de ça, il a envoyé un mail avant la réunion aux enseignants en leur demandant, sans présager de découpage du UE ou de quoi que ce soit, si on devait créer un tronc commun pour ce master à 4 parcours, quelles sont les matières que vous souhaiteriez voir figurer dans ce tronc commun. Donc là, c'est Basile qui a repris un peu la main sur le déroulé de la réunion. Et je dis ça parce que ça a été un peu un moment de crispation pour moi, conseillère pédagogique. J'étais tout juste en train de me former à approche programme, approche par compétences. Et donc là, le retour de Basile en termes de matière m'a fait un peu, on va dire, faire des bonds. Et donc j'ai dit, j'ai pas mal. C'est dans ce sens-là que je disais que c'est important de savoir qu'on est 4 conseillers pédagogiques à l'IDIP, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu besoin du reste de l'équipe pour me dire comment est-ce que je fais dans cet accompagnement, sachant qu'il retourne vers une entrée contenu matière, alors que dans mon monde rêvé de l'approche programme, il faudrait pas retourner par là. Et donc on s'est dit, il faut faire en fonction de leurs besoins et de leurs demandes, sinon on va pas maintenir l'engagement de l'équipe. Donc j'ai laissé Basile retourner avec la logique des matières. Donc concrètement, quand les enseignants sont arrivés à l'atelier, il y avait un certain nombre de post-it déjà positionnés avec les matières. Donc ça, c'était leur réponse aux questions suite au mail de Basile. Donc toutes les matières qu'ils souhaitaient voir figurer dans ce tronc commun. Et les numéros, c'est le nombre de fois où elles sont apparues. Donc il y a 5, 10, 2 enseignants qui souhaitent voir apparaître cette matière dans le tronc commun. Et donc concrètement, lors de la réunion, il a mis les enseignants en groupe et il a demandé aux enseignants de choisir quelles étaient pour eux les matières les plus importantes à voir figurer dans le tronc commun à partir du travail préalable qui avait été fait. Et bien sûr, là, c'est là que j'ai réendossé le rôle de conseillère pédagogique. Je lui ai dit « Ok, tu veux qu'on reparte sur les matières, on y va, parce que de toute façon, sinon, on mobilisera personne. Par contre, c'est important de faire le lien avec les macro-compétences qu'on a définies lors du premier atelier. Donc, on fait une matrice sur le tableau. Donc, sur le tableau, il avait dessiné une matrice avec les macro-compétences qu'on avait déjà définies ensemble. Et on est allé coller les post-it sur les macro-compétences qui correspondaient. Et donc, on est arrivé à une matrice de formation pour le tronc commun, avec les macro-compétences visées et les matières. On n'a pas parlé d'objectifs ni d'acquis d'apprentissage. À ce stade-là, c'était trop précoce pour eux, quoi. Et clairement, enfin, je pense que si on avait été là-dessus, on n'aurait eu personne. Donc voilà ce que ça a donné, le croisement entre les macro-compétences en haut et les matières qu'ils voulaient voir développées dans ce tronc commun. Suite à cet atelier, on a eu ce qu'on appelait un temps de maturation avec Basile, donc tout la face immergée de l'iceberg. Et donc là, concrètement, j'ai fait un accompagnement avec Basile assez formel où on a analysé ce qui s'était passé dans l'atelier avec une grille d'analyse et je lui ai fait un retour sous forme de ce qu'on appelle un coaching circle. L'idée, c'était pas de lui apporter des conseils directement, mais de lui exposer la manière dont j'avais entendu l'analyse qu'il avait pu faire de cette expérience. Et donc, à partir de là, on s'est rendu compte que ça avait été un moment charnière dans l'accompagnement. Et il a décidé de prendre du recul sur ce qu'il avait mis en place jusqu'à présent et de communiquer à CUPES, donc un colloque de pédagogie. Et donc, ça lui a permis de formaliser un peu tout le travail qu'il avait fait jusqu'à présent avec l'équipe et de prendre du recul. Suite à ça, au printemps 2017, il a fait de nouveau appel à Lydie pour réaliser une journée pédagogique, discuter de pédagogie avec ses collègues. Et donc, il a envoyé un mail à ses collègues pour savoir quelles étaient les thématiques qui les intéressaient plus particulièrement. Sont ressorties de ce sondage deux thématiques en particulier, le projet étudiant et les compétences transversales. Donc il a encore fait appel à moi cette fois-ci en me disant oui, j'aimerais organiser une journée pédagogique autour de ces thématiques. Et donc là, disons qu'il n'est pas venu avec l'idée de on va continuer dans le déroulé de l'approche programme, hein, mais il m'a dit j'aimerais qu'on fasse une journée pédagogique sur ces deux thématiques. Donc, je lui ai dit OK. Par contre, n'oublions pas le travail qu'on a commencé à engager autour de la construction du master autour d'une logique approche programme et des compétences que vous avez définies. Donc, OK pour qu'on fasse cette journée pédagogique. Par contre, on la raccroche au travail qui a déjà été fait. D'accord ? Parce que sinon, le risque, et on l'a vu dans plusieurs équipes, c'est qu'on a un beau référentiel de compétences qui est affiché, mais concrètement, dans la mise en œuvre, ben, y a rien qui se passe, quoi. Donc, cette journée thématique, le matin, on a donc réalisé un atelier sur le projet étudiant. Et donc, l'intention de cet atelier, c'était répondre aux besoins de l'équipe pédagogique qui voulait mettre en place un travail autour d'un projet pour les étudiants dans le master. Prise de leadership par d'autres enseignants, on s'est dit, là, c'est le moment peut-être qu'il y ait des enseignants qui prennent la responsabilité de ce dossier-là pour éviter qu'il n'y ait que Basile qui soit porteur de la logique approche programme, approche par compétences, et assurer la cohérence avec la démarche engagée. Et ça, on l'a fait dans la manière dont on a animé l'atelier. Donc, on était deux conseillers pédagogiques à animer l'atelier. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a amenés à définir de manière collective ce qui était pour eux un projet en informatique et ce sur quoi ils voulaient les faire travailler. Et surtout, on a fait le lien avec les macro-compétences qu'ils avaient déjà travaillées lors du premier atelier, et on leur a demandé de faire un lien entre les macro-compétences qui existaient et les cours dans lesquels ils pouvaient travailler le projet. D'accord ? Donc, quelles sont les macro-compétences qu'on vise à développer à travers le projet ? Quelles sont les matières qui contribuent à développer ces macro-compétences ? Et du coup, dans quelles matières est-ce qu'on peut faire travailler les étudiants sur le projet ? Donc c'est comme ça qu'on a réussi à raccrocher la logique qui avait été mise en place avec leur volonté de travailler sur un projet à mettre en œuvre pour les masters. Deuxième atelier, un atelier autour des compétences transversales. Et donc là, la volonté, elle venait principalement de Basile qui avait en tête l'idée de travailler sur une macro-compétence transversale et de voir comment est-ce que pendant le master, cette macro-compétence était développée et évaluée. Basile a assez bien conscience de la temporalité et du travail que ça peut représenter, et donc il n'est pas parti bien en tête sur toutes les macro-compétences. Il s'est dit, je vais choisir une macro-compétence, je vais voir quels sont les collègues qui sont motivés pour travailler avec moi sur concrètement comment est-ce que au sein du master, enfin dans le déroulé du master, on fait pour la développer et l'évaluer. Et donc là, j'ai mis point de vigilance pour le conseiller pédagogique. Alors, encore une fois, c'était entré en fonction de... on est entré dans cet atelier en fonction de leurs besoins et de leurs attentes, et on a essayé de raccrocher à la logique approche programme. Et là, le point de vigilance, c'était que la demande venait de Basile et que je savais pas trop pendant l'atelier si j'étais amenée à accompagner Basile en tant qu'enseignant et à accompagner son développement professionnel, parce que je savais clairement vers où il voulait aller lui, ou si j'accompagnais l'équipe à réfléchir collectivement à leur projet de master. J'ai pas de réponse, hein, mais c'était un point de vigilance en tout cas. Alors le bilan qu'on a tiré avec Basile de cette expérience. Alors les deux objectifs de départ, c'était initier l'approche programme et créer une dynamique collective. Donc initier l'approche programme, ça a été fait. Maintenant, on l'a pas déroulé, comme je vous l'ai dit, de manière fidèle à la théorie. C'est-à-dire que en fonction des besoins et des attentes, on a raccroché chacun des moments de travail à la logique qui avait été posée dès le départ. Par contre, ça a été important de poser dès le départ la vision, les macro-compétences, et ensuite, en fonction des besoins, on a raccroché à la logique. Deuxième chose, créer une dynamique collective. Donc ça, Basile a réussi assez bien à le faire pendant les ateliers parce qu'il avait énormément travailler les ateliers, on les a travaillés ensemble, mais il avait anticipé un certain nombre de doutes, de résistances, de réticences, et donc à chaque fois pour les ateliers, il avait bien préparé, soit en envoyant des mails avant, soit en demandant aux enseignants de se mobiliser avant, et donc ils arrivaient dans l'atelier avec déjà une idée de ce qui allait être fait et de comment est-ce qu'ils allaient pouvoir contribuer. On avait identifié un certain nombre de risques au départ, et disons qu'on était vigilant à ces risques-là, et donc dans la construction des ateliers, ça s'est ressenti également. Le risque, c'était s'éloigner de la logique des compétences. On s'en est éloigné, mais peut-être je sais pas si c'est mieux y revenir, mais en tout cas pour continuer, en tout cas dans la logique. Basile avait très peur que ce soit inefficace, c'est-à-dire demander à ses collègues de travailler sur quelque chose qui n'aboutisse à rien. Mais ça, je pense que c'était une peur d'enseignant qui n'avait pas l'habitude de travailler en équipe et de mobiliser ses collègues là-dessus. Il avait peur également qu'il y ait une absence de dynamique collective, mais voilà, je l'ai dit, à chaque fois, du coup, on était vigilant à la manière dont on organisait les ateliers. Et il avait peur de devoir prendre des décisions dans l'urgence. C'est notamment pour ça qu'il avait voulu faire l'atelier autour de la matrice de formation pour le master avec les quatre parcours. Ce qu'on retient en termes d'expérience de ce projet, c'est l'importance des différents moments qu'on a appelés charnières. Et ces moments-là, c'est ce qui a permis d'avancer un pas plus loin, on va dire, dans la logique d'approche programme. Le temps long, donc comme je vous l'ai dit, Basile, il s'est formé en automne 2015. Et aujourd'hui, on peut clairement pas dire que le master a été pensé dans une logique approche programme. Mais concrètement, on en est à la mise en œuvre du programme, là, 2018-2022. Et concrètement, on peut pas dire que chacun des cours réponde parfaitement au développement des compétences, etc. C'est un travail de longue haleine. Tout le travail de l'ombre, donc tout le travail de communication qu'a pu faire Basile, tous les moments de préparation, de débriefing, de mise au point avec le directeur, etc. Et la répartition des rôles. Donc ça, je l'ai dit, on avait clairement identifié trois rôles clés. Et surtout, ce qui était important, c'était que ces rôles étaient explicités. Parce que des fois, on a ces trois rôles qui sont présents, mais ils sont pas forcément explicités. Explicité, ça veut dire que Basile, lorsqu'il animait un atelier, il arrivait en disant « Aujourd'hui, j'ai ma casquette d'animateur de l'atelier, donc je vais pas intervenir dans les discussions que vous allez avoir. » Il y a des fois où il arrivait en tant qu'enseignant, il disait « Aujourd'hui, c'est Marion qui va animer l'atelier, moi je serai là comme vous en tant qu'enseignant. » Et donc ça, c'était important de le définir à chaque fois pour éviter qu'il y ait des tensions avec les autres collègues ou qu'il y ait juste une confusion entre les rôles que pouvait avoir chacun. Pareil pour le directeur de composante qui disait quand il était là pour prendre des décisions ou quand il était là simplement en tant que collègue qui allait participer aux discussions. Et donc, j'ai pas identifié précisément, mais ça a eu un impact sur le développement professionnel de Basile, qui notamment a été amené à communiquer à CUPES suite à cette expérience, qui a pris un rôle de leader au sein de son équipe pour travailler la nouvelle maquette. Et moi, en tant que conseillère pédagogique, parce que d'accompagner cette équipe et en particulier Basile, ça m'a permis de repenser la manière dont on accompagne les équipes, de construire un modèle qui est très mouvant en fonction des contextes, mais en tout cas un modèle dans comment est-ce qu'on accompagne les équipes. Et les perspectives, du coup, pour la suite, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenir la dynamique à moyen et à long terme, parce que là, concrètement, les enseignants, ils sont dans la mise en œuvre du programme et ils font pas forcément appel à nous. Donc, Basile continue, bien sûr, à travailler sur cette logique-là. Notamment, il a réussi à faire financer un projet autour du développement d'une macro-compétence en particulier. Je vous disais, dans le dernier atelier, sa volonté, c'était de travailler sur une macro-compétence. Donc, ce qui a été choisi, c'est de travailler sur la macro-compétence de l'écrit. Et donc, il a obtenu un financement pour travailler à l'échelle de l'Université de Strasbourg sur un projet Scriptum. Et donc, il travaille avec plusieurs composantes et des enseignants de plusieurs composantes pour tester des modalités de développement et d'évaluation de cette macro-compétence. Donc on peut dire que c'est un pas assez important pour lui. Et à l'échelle de l'IDIP, les perspectives, c'est premièrement que notre cycle de formation, donc je vous parlais du cycle de formation qui avait suivi Basile sur l'approche programme, ce cycle de formation, il a été modifié. Parce que concrètement, on s'est rendu compte que les équipes avaient répondu à l'accréditation. Donc désormais, elles sont plus dans une logique de comment est-ce qu'on construit le programme de formation, mais plutôt comment est-ce qu'on le met en œuvre. Donc on a modifié notre cycle de formation qui est dorénavant plus orienté vers la réflexion autour des compétences. Donc comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a développé collectivement un référentiel de compétences, comment est-ce qu'on fait pour collectivement développer et évaluer ces compétences au sein de la formation. Donc désormais, notre cycle de formation est orienté sur les compétences. Et on participe également, on mène un projet à l'Université de Strasbourg. Je pourrais vous en parler un peu tout à l'heure si vous êtes intéressé, qui s'appelle ADCES, accompagner le développement des compétences dans l'enseignement supérieur. Et donc, on mène une réflexion plus globale avec d'autres universités en France, avec un soutien du ministère, sur comment est-ce qu'on fait pour penser le développement des compétences, comment est-ce qu'on fait pour accompagner le développement des compétences, tant sur le plan théorique que pratique. Et surtout, dans ce projet-là, on a un volet important qui est celui du rôle de la gouvernance, parce qu'on s'est rendu compte à l'Université de Strasbourg que le soutien politique avait joué un rôle important dans l'implication des équipes de manière générale pour entrer dans une logique approche programme. Voilà pour mon témoignage. Donc, je suis à votre disposition pour répondre aux questions, commentaires, remarques. Voilà. Merci.